Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'accepter de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France à Paris et spécialiste du Moyen-Orient. Et votre dernier livre s'intitule « Qatar, les secrets d'une influence planétaire ». Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, eh bien on va parler du Qatar Gate. Ça fait vraiment la une ici en Belgique, étant donné que ça touche le Parlement européen, dont une partie se trouve ici à Bruxelles. Alors le Qatar Gate, c'est ce scandale de corruption au Parlement européen. La justice belge a découvert que plusieurs eurodéputés, notamment la vice-présidente du Parlement Eva Kaili, mais aussi le Belge Marc Tarabella ou encore les Italiens Pier Antonio Panzeri et Andrea Cozzolino étaient impliqués dans des affaires de corruption avec des États tiers, le Qatar et le Maroc. Alors pour tenter de démêler tout ça, parce que c'est quand même rudement compliqué, Christian Chéneau, quelle est votre analyse ?
L'analyse, c'est que des pays comme le Qatar ou le Maroc ont une tradition, j'allais dire, de lobbying agressif. Et là, on n'est pas loin de la corruption. Alors le Maroc, parce qu'il y a une cause à défendre, c'est d'abord celle du Sahara occidental. Donc il y a un énorme lobbying du Maroc pour essayer de convaincre les Européens de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental qui est contesté, qui est un territoire contesté, qui est un conflit qui n'est pas réglé au sein de l'ONU, et puis vous avez l'Algérie, le Polisario, voilà, qui sont contre. Et puis le Qatar, c'est une autre dimension avec peut-être plus d'argent. Le Qatar qui a développé un soft power, un pouvoir d'influence, et comme vous l'avez vu, il y a eu cette Coupe du Monde qui s'est terminée le 18 décembre dernier, et pour construire cette Coupe du Monde, il a fallu une dizaine d'années, 200 milliards d'investissements, et le Qatar avait aussi besoin de, j'allais dire, redorer son blason. Il y a eu beaucoup d'attaques, vous vous souvenez, sur le sort des travailleurs, et donc des travailleurs qui allaient construire, justement les stades, les infrastructures du Qatar, pendant 10 ans, et beaucoup sont morts d'ailleurs sur les chantiers. Et donc le Qatar apparemment a fait des actions de lobbying, peut-être assez agressives, on le verra dans ce cas-là, pour redorer le blason et donc pour finalement améliorer l'image dans des lieux de pouvoir. Et le Parlement européen est un lieu de pouvoir et le Qatar s'intéresse à ces lieux de pouvoir pour à la fois pousser ses pions, avoir des réseaux d'influence et redorer son image.
Alors oui, effectivement, vous parlez de cette tradition de lobbying agressif. N'y a-t-il pas une autre façon pour un pays comme le Qatar, qui est quand même relativement controversé, notamment en termes de droits humains, vous l'avez dit, une autre manière justement d'obtenir une redoration de son blason finalement à échelle européenne, occidentale ?
Il y a plusieurs niveaux. D'abord, il y a une tradition, pas simplement au Qatar, mais dans les pays du Golfe, une tradition bédouine, des cadeaux, on appelle ça l'ikramiyé, c'est-à-dire qu'on donne un cadeau aux autres, etc. Alors moi, j'explique dans mon bouquin que le Qatar a transformé ça en diplomatie de la Rolex, et des Rolex, enfin des montres de luxe, plus généralement, mais des montres qui peuvent aller jusqu'à 80 000 euros, c'est pas des petites breloques. Donc, il y a cette tradition un peu, quand un hôte vient au Qatar, eh bien, on l'honore avec des cadeaux. Donc il y a ça, cette tradition bédouine. Mais le problème, c'est que là, ça va très loin et que le Qatar aussi veut aller vite, parce qu'encore une fois, c'est un pays qui sort du sable. Il est sorti il y a 20 ans, quoi. Donc, et cette Coupe du Monde, il fallait aller très très vite. C'est à peine 10 ans. 10 ans, c'est très court. Et donc, voilà. Et puis, je pense, dans le cas du Qatar, il y a peut-être un sentiment de toute puissance, une forme d'impunité. C'est-à-dire que le Qatar, faut jamais l'oublier, est un pays immensément riche, avec des richesses gazières quasiment les deuxièmes au monde. Et donc, avec une population de 300 000 habitants. Donc, ça fait partie des pays les plus riches avec le Luxembourg et le Liechtenstein. Donc voilà. Donc quand vous avez beaucoup d'argent et que vous avez un problème, en général, la meilleure façon de le régler, c'est d'acheter des gens.
Et on imagine que c'est pas vraiment une coïncidence si ce scandale a éclaté en pleine Coupe du Monde 2022.
Apparemment, ce qui ressort, mais encore une fois, et là, il y aura des suites, parce que l'un des protagonistes, vous l'avez cité, Pier Antonio Panzeri, donc l'ancien eurodéputé italien qui était à la tête d'une ONG un peu fumeuse, il va passer à table, j'allais dire. Il a signé un accord avec les enquêteurs pour dire la vérité, en fait, pour avoir une sorte de moins de peine et une remise de peine et en échange de ces révélations. Donc, on va savoir. Mais apparemment, ça pourrait être un ministre du travail du Qatar qui aurait un petit peu été au-delà du raisonnable, et justement pour redorer l'image du Qatar, et notamment sur le dossier des travailleurs qui était assez sensible, et le Qatar et d'autres pays, pas simplement le Qatar, hein, guettent un petit peu les résolutions qui sont prises par le Parlement européen sur les résolutions sur les droits de l'homme, sur justement les droits humains, et donc peut-être qu'il y a eu un peu trop d'enthousiasme, d'excès, ce qui n'a pas forcément plu au, à l'émir, le cher Tamim, hein, parce que là, évidemment, en termes d'image, c'est catastrophique.
Alors, dans la presse, on parle beaucoup de ce que risquent les députés européens. On parle de prison, on parle d'amende, on parle de sanctions. Mais finalement, on se demande quand même quelles sont ou quelles seront les sanctions ou les répercussions sur le Qatar ou sur le Maroc.
Ah bah sur le Qatar, il y en aura aucune, hein, parce que le Qatar, encore une fois, est très très riche. Le Qatar est l'un des points de passage obligés pour la fourniture du gaz dans le monde, et l'Europe a besoin de gaz, hein, dans le contexte de la guerre en Ukraine, et l'Europe veut se passer du gaz et du pétrole russe, et il faut bien trouver d'autres approvisionnements, et donc le Qatar est sollicité, j'allais dire est courtisé, hein. On a vu que pendant la Coupe du Monde, l'Allemagne a signé un contrat de long terme d'approvisionnement en gaz, la France aussi, hein, via Total, a des intérêts au Qatar sur le gaz. Donc voilà, tout le monde a des intérêts. Donc pour le Qatar, évidemment, c'est plutôt de la mauvaise publicité, hein, mais en coulisses, il y aura certainement peut-être des arrangements. Et encore une fois, pour le moment, il y a quelques dossiers en suspens sur, par exemple, l'ouverture du ciel aérien à Qatar Airways, il y a l'histoire des visas pour des exemptions, etc. Mais au fil des mois, le Qatar reprendra sa place. Hein, et puis le Maroc, même chose, parce qu'il y a des liens tellement forts entre le Maroc et l'Europe, sur plein de dossiers d'ailleurs, hein, pas simplement le Sahara occidental, mais sur la pêche, sur la lutte contre le terrorisme, contre la drogue, etc., sur l'agriculture. Donc là encore, au début, ça va faire beaucoup, ça fait désordre, hein, évidemment, pour ces pays en termes de réputation. On se souvient aussi que le Maroc avait été touché par le scandale Pegasus, hein, ce logiciel espion israélien qui avait utilisé les services marocains pour espionner beaucoup de gens en France et un peu partout. Donc voilà, mais ça passe. Et puis après, mais surtout, on verra ce qui va venir des accusés, hein, des gens qui sont soupçonnés d'avoir participé à ce réseau de corruption, et surtout d'avoir les détails. Le modus operandi, comment ça s'est passé, quelles sommes en jeu, par quel biais. On a parlé de valises d'argent, mais il y a peut-être d'autres choses, hein, les cadeaux, etc., etc. Donc je pense qu'on est au début de cette affaire, et le fait que Panzeri ait signé cet accord avec la justice belge va nous en dire beaucoup dans les prochaines semaines.
Une dernière question, Christian, chez nous au Parlement européen, effectivement, on le voit, Pier Antonio Panzeri se repentit et entre guillemets balance sur son collègue, hein, si j'ose dire, Marc Tarabella. Est-ce que toute cette affaire, ça enraye finalement l'image d'une institution telle que le Parlement européen, selon vous ?
C'est quand même très gênant, hein. C'est gênant, et au-delà de ça, sur la parole politique. Parce que évidemment, tous les hommes politiques et les femmes politiques ne sont pas des pourris. Tous et toutes n'acceptent pas des valises d'argent, des Rolex, etc. Donc, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ceci dit, c'est vrai qu'il va falloir prendre des mesures, hein, au Parlement européen pour un peu verrouiller un peu tout ça. Parce que maintenant, dès que quelqu'un, un eurodéputé, dira sur un pays, il fait des bonnes choses, on dira mais vous avez été payé. Hein, donc il y a un peu un discrédit de la parole politique, hein, qui est d'ailleurs utilisé par les ennemis de la démocratie. On a bien vu Viktor Orban au début de l'affaire. Donc il faut vraiment très vite, et je pense que c'est ce qui est en cours, hein, actuellement dans les instances européennes, de trouver quelques parades, de mettre quelques verrous, en tout cas d'agir sur ces process de lobbying, hein, savoir qui fait quoi, sur les rencontres avec des représentants étrangers. Il y a pas eu de dossier. Et ça, je pense que c'est un vrai angle mort, faire du ménage sur les ONG, hein, ces pseudo-ONG, en fait, qui sont des coquilles vides, hein, mais qui sont des faux-nés pour, justement, de l'entrisme de certains pays, de faire un peu le ménage. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup à faire. Et puis, il y a aussi la morale personnelle de chacun, parce que, in fine, pour être corrompu, enfin, la corruption, c'est comme le tango, hein, faut être deux pour le danser. Il y a celui qui donne et celui qui prend. Après, voilà, donc, c'est un vaste chantier, je pense, quoi. on n'arrivera pas, parce que ça, à régler cette question, parce que ça date depuis la nuit des temps, mais en tout cas, assainir des choses, mettre des procédures, ça a été fait, par exemple, en France, hein, sur, après la publication de notre, avec mon collègue Georges Mabrudon, on avait publié Nos Très Chers Émirs en 2017, hein, 2018. Et on avait mis en cause notamment les parlementaires français qui allaient à la soupe, hein, qui recevaient beaucoup de cadeaux de la part de l'ambassade. Bon voilà, il faut un peu, comment dire, nettoyer les écuries d'Augias.
Merci beaucoup Christian Chéneau d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Radio Judaïka. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste à la rédaction internationale de Radio France à Paris ainsi que spécialiste du Moyen-Orient. Je rappelle également le titre de votre dernier livre qui s'intitule Qatar, les secrets d'une influence planétaire. Merci beaucoup pour vos précieux éclairages. À très bientôt.
Merci à vous.